Il y a le film Antarctica.
Oui, mais moi je voulais avant de.
Eh bien, essaye.
Prenez.
Hein, essaye.
Vous voulez vous installer?
Oui,
d'accord.
Oui, c'est facile. C'est facile.
Merci de rejoindre la salle. On va commencer.
Je veux savoir votre. Votre intervention tout à l'heure en parlant de. De Sartre, je crois, Sartre. Vous disiez que les mineurs, il y en avait certains qui voulaient fermer leur usine.
C'est pas les mineurs.
C'est pas les mineurs.
Non, oui. C'est dans des usines de la région parisienne, oui. Chez Renault.
Oui, pardon.
Excusez-moi parce que vous êtes en train de manger. Truc, là, vous.
Et ils ont fermé la porte, Jean-Paul Sartre est resté à l'extérieur.
Mais pour vous, est-ce que Jean-Paul Sartre, à ce moment-là, il représentait vraiment une conscience politique assez significative? Est-ce qu'il avait assez les motivations pour dire la vérité par rapport à la question algérienne à l'époque? Parce qu'il y a Albert Camus, qui par exemple, en citant L'Étranger, ouais. Il n'a pas été édité par Jean-Paul Sartre. Il a même été sanctionné par Jean-Paul Sartre. Et il y avait
le problème des rapports de Camus avec la DRI, c'était quand même des rapports très difficiles, oui. Dans la mesure où il a dit, en recevant le prix Nobel, il y a un gars qui a posé la question, et j'ai l'interview de Kateb Yassine là-dessus, qui disait, il y a un Algérien qui était dans la salle, qui a dit, mais pourquoi? Il dit... entre l'Algérie et ma mère, je préfère ma mère.
Qui c'est qui a dit ça?
Camus. Et il y a un Algérien qui lui a répondu, moi je ne suis pas capable de faire la différence entre l'Algérie et ma mère, parce que je suis Algérien. Et j'étais au moment où il a eu le prix Nobel, Camus, et Kateb Yassine l'attaquait vraiment.
Eh bien, les tout débuts, c'était la pêche aux grenades. J'avais 12 ans, 13 ans, c'était le début de la guerre, j'étais au lycée de Quimper, en 5e. J'étais éclaireur de France. Ça existait aussi sur Marseille, ça continue peut-être à exister maintenant. On avait beaucoup de discussions entre nous, comme ça, des discussions de jeunes, de bon, 12 ans, 13 ans, l'occupation allemande, il fallait que ça cesse. On connaissait toutes les côtes pour avoir été, depuis qu'on avait, moi j'avais 8 ans, lorsque j'ai commencé à aller camper avec les louveteaux. Là, on connaissait toutes les côtes, y compris les endroits où les Allemands construisaient des casemates. Et à côté des casemates, il y avait des dépôts de munitions. Et on s'est dit, mais il faudra bien un jour qu'on réponde aux armes des soldats allemands en essayant d'en avoir aussi de notre côté, quoi. À 14 ans, j'ai commencé avec les copains à faire les plans des casemates du sud Finistère d'abord, et puis voilà, avec d'autres éclaireurs de France. Et puis, finalement, à côté des casemates, il y avait des dépôts de grenades. On a trouvé les accès qui nous permettaient d'arriver à ces dépôts de grenades. On en a pris et on les ramenait aux copains qui préparaient leur départ au maquis, qui avaient eux 20 ans, c'était les routiers, éclaireurs de France de Quimper. Bon, ça a donné des problèmes pour... Oui, il y a eu le passage, certains ont attendu le débarquement en Normandie pour engager des actions directes contre les soldats allemands. Les éclaireurs de France avaient pris un petit peu d'avance sur ce plan. Et puis, surtout, moi j'avais été amené à faire quelque chose qui m'a ensuite, qui a changé complètement le cours de ma vie. C'est qu'on a été pris en chasse avec un copain qui était je ne dis pas mon frère parce que mon frère était déjà au maquis, mais plus que mon frère, on était élevés ensemble depuis l'âge de 8 ans, donc Louveteau, éclaireur de France, le clan éclaireur de France ensuite, et toujours est-il que j'étais piqué des... Je piquais des grenades, et un jour, pendant notre transport de grenades, on a été pris en chasse par des Allemands dans la ville de Quimper où on vivait. Et puis, on a dû se séparer, comme ça, à un moment, le copain et moi, on avait des sacs, qu'on appelait des sacs russes. Les sacs russes, ça n'a rien à voir avec la Russie. C'est des sacs de la couleur brune, dans lesquels les gens allaient, c'était des sacs où on mettait des pommes de terre en général, mais ça servait surtout aux gens à aller chercher de l'herbe pour les donner aux lapins. C'était dans nos familles, c'était ce qu'on faisait pour avoir quelque chose, un peu de viande à manger. Et donc on avait des sacs pleins de grenades, qu'on avait été piqués donc dans les dépôts allemands, et puis on a été pris en chasse et on s'est séparés avec un sidecar qui tournait autour de nous dans les rues de Quimper. Et puis à un moment donné, on m'a dit, j'ai entendu des coups de feu, il y a des gens qui m'ont dit, cache-toi parce que ton copain, il a été descendu. Et puis je me suis dit, s'ils ont descendu le copain, moi, je vais le venger. Et 16 ans, et puis j'ai débalancé des grenades sur un camion allemand, et j'ai vu le gars qui recevait la grenade là, et qui avait l'air d'avoir à peu près mon âge. Finalement, on m'a dit après qu'il avait 18 ans, et c'était un soldat allemand, mais qui s'est dressé derrière la mitrailleuse que je visais avec la caméra, et j'ai vu ce que ça donnait quand avec la caméra, avec la grenade, et j'ai vu ce que ça donnait. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut continuer à se battre. En plus, le copain Bob n'était pas mort du tout. Il avait réussi à s'enfuir de son côté, comme moi j'étais. Et puis il y avait quand même ce gars que j'avais vu, qui m'avait regardé comme ça, qui a pris la grenade en pleine poitrine. Et j'ai vu ce que ça donnait. Et puis je me suis dit après, j'ai dit au copain, moi je veux bien prendre un flingue, je veux bien continuer jusqu'à ce qu'on ait chassé les Allemands d'ici, mais je ne tirerai pas sur un gars. Je tirerai en l'air, je serai avec vous, je reste, j'ai pas peur, mais je ne veux pas tuer. Et voilà, et après on m'a demandé...
Je vais juste préciser une chose par rapport à l'assistance pour ceux qui penseraient qu'on n'est pas dans le domaine du cinéma, mais au contraire. Vous allez voir que par cette histoire de résistance que raconte René, c'est là que va se forger, je dirais, toute la lignée de tous ces films qu'il a fait de dénonciation du colonialisme, de la guerre au Vietnam, en Indochine, des films de lutte qui vont se retrouver, je crois, 184 films.
Il a tout dit. La Cinémathèque française dit, dans son truc très très officiel, que Vautier a fait 180 films, dont la plupart sont encore à retrouver, parce que c'est vrai que les copains m'ont dit, alors qu'est-ce que tu veux faire maintenant à l'indépendance, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je sais pas, peut-être de la photo, du cinéma, mais plus jamais me servir d'une arme. Elle dit, mais le cinéma, ça peut être une arme aussi, on va t'envoyer, au besoin un coup de pied dans le derrière, d'abord tu passes ton bac de philo, et puis on t'envoie passer le concours d'entrée à l'Institut des hautes études cinématographiques qui venait de d'être transféré de Cannes à Paris.
Fémis,
et puis voilà.
Maintenant
c'est la Fémis, oui. Et puis j'ai passé le concours d'entrée, j'avais tellement peur que les copains me bottent les fesses si j'étais pas reçu que j'ai passé brillamment l'écrit, un peu moins brillamment l'oral. J'avais un petit peu une dispense d'âge, on m'a collé la croix de guerre, et puis en même temps je m'occupais du groupe de théâtre qu'on avait créé entre nous là, et ça m'a amené à Marseille. Pourquoi? Parce que notre groupe était le seul groupe de jeunes en France cité à l'ordre de la nation par le général de Gaulle, et l'armée nous offrait la possibilité d'aller avec notre petit groupe éclaireur de France et comédien tourner pour les enfants de militaires qui se trouvaient en Algérie et en Tunisie et au Maroc. Et on a donc fait une tournée comme ça, ce qui m'a mis en contact avec la réalité africaine au moment où il y avait déjà la répression en Algérie contre les premières, ce qu'on a appelé les événements de Constantine, où il y a eu quand même ou 30 000 ou 40 000 morts, on n'a jamais su combien exactement. C'était en 1945, c'était des gars qui avaient fait la guerre, qui rentraient chez eux, et puis, et qui avaient des problèmes là-bas. On s'est dit, c'est quel genre de problème ? Je me suis un petit peu penché là-dessus, et à l'IDEC, comme je suis sorti premier de mon rang, on m'a dit, est-ce que tu veux pas faire un film pour la Ligue de l'enseignement sur sur la vie réelle des paysans africains en Afrique occidentale française. C'était en 1949, j'avais donc terminé mes études à l'IDEC, j'ai été là-bas, et on m'a dit, mais tu filmes réellement ce que tu vois. Donc la Ligue de l'enseignement destinait ce film à l'éducation dans les lycées et collèges. Et puis là-bas, je suis tombé au moment de la répression de ce qu'on a appelé les événements de Côte d'Ivoire. Et j'ai tourné la répression par les forces françaises là-bas, par la répression des mouvements, des premiers mouvements d'indépendance des Africains. Et ça a été assez sanglant. J'ai rendu compte dans le film de ce qui se passait. Au départ, j'ai dit, mais c'est dingue, moi j'ai filmé, on ouvre les tombes pour que je puisse filmer ce qu'il y a dedans. C'est des gens qui ont été tués par des fusils français, par des vous êtes fous ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, à partir de ce moment-là, on m'a interdit de continuer le tournage. J'ai dit, je suis là pour tourner un film pour la Ligue de l'enseignement et je le ferai jusqu'au bout. J'ai disparu dans la nature, c'est les Africains qui m'ont un petit peu piloté à travers toute l'Afrique. Je suis rentré avec un film qui a été interdit, les négatifs ont été détruits, j'ai récupéré une partie des positifs qui avaient été tirés sur lesquels je devais signer en reconnaissant que j'avais tourné ce film en violation d'un décret Pierre Laval, ministre des colonies en 1934. J'ai eu beau dire, mais moi, on m'a décoré de la Croix de Guerre pour avoir résisté, fait de la résistance contre les Allemands. Et Pierre Laval était le principal soutien des Allemands en France. Alors maintenant qu'il y a des décrets Pierre Laval qui sont encore en vigueur en Afrique, c'est dingue, quoi. C'est bon. Et puis, le film, j'ai réussi à en sortir des morceaux comme ça, en signant sur des boîtes vides et en reprenant des boîtes pleines au ministère de l'Intérieur. Et puis j'ai fait le montage du film que j'ai sorti sous l'égide du clan éclaireur de France, de Quimper, à Quimper. Et c'était le seul groupe de jeunes qui avait été cité à l'ordre de la nation. Donc c'était difficile d'interdire le film. Il n'empêche que moi, j'ai tiré pas mal de temps de prison militaire, le temps qu'on enquête pour savoir si j'avais bien été décoré de la Croix de Guerre. Bon, et puis à partir de là, j'ai fait des films. Dans le même sens.
Afrique 50,
on va le nommer.
Afrique 50,
oui. Qui a eu un prix, le prix du meilleur film document mondial de l'après-guerre, qui m'a été remis par un jury international qui était présidé par Joris Evans, qui était le plus grand documentariste à l'époque, à mon sens, le plus grand documentariste mondial. Voilà, et puis je suis rentré en France où le film interdit a été classé parmi les trois meilleurs documentaires français de l'année. Et était donc, on a eu une prime pendant qu'on me collait dans une prison militaire parce que je l'avais fait. Bon, voilà, à partir de là, si je raconte tout ça, c'est d'une part que je ne sais pas si on va passer ici Afrique 50
ce soir.
Bon, bah alors voilà. Et puis après, bah, tout ça, ça a découlé du même. J'ai continué à faire des films avec les gens. Avec des gens qui avaient des choses à dire et auxquels on refusait la parole.
les Algériens, avec avoir 20 ans dans les Aurès.
Oui, d'abord les Algériens qui étaient dans les maquis, d'abord la Tunisie. J'ai fait le premier film de la Tunisie indépendante, le premier film tunisien a été fait par un Breton, et avec une petite, des petits trucs comme ça, parce que j'avais le don de choisir les gens avec lesquels je tournais. Et j'ai parlé pendant 2 jours à une fille qui était venue figurer dans le film, et qui ne savait pas bien tenir son voile, comme ça. Elle était venue avec ses copines de Tunis, ses copines qui habitaient Madia, au centre de la Tunisie. Mais les femmes voilées, dont je voulais raconter l'histoire, ne voulaient pas être filmées, ne voulaient pas qu'on voit leur visage. Alors elles ont dit, ça fait rien, on va faire revenir nos filles, qui elles sont étudiantes et portent plus de voile, on leur remettra nos voiles, et vous verrez comme ça des belles jeunes filles saluant le départ du premier bateau acheté par des femmes tunisiennes qui avaient mis, l'histoire est véridique, au moment où, de l'indépendance de la Tunisie, il y avait des bateaux italiens qui pêchaient le long des côtes tunisiennes, mais qui étaient ancrés dans les ports tunisiens. Et il y avait des marins tunisiens dessus. Et les patrons, les armateurs italiens ont dit, on va rapatrier les bateaux là, parce qu'on ne veut pas que nos bateaux soient sous le pavillon tunisien. Et les femmes qui n'avaient pas de coffre-fort, qui avaient les seules réserves quand il y avait une bonne pêche, que les maris ramenaient un petit peu d'argent, on faisait des anneaux d'or ou d'argent que les femmes portaient au pied. C'était à la fois un ornement et puis la réserve pour les moments difficiles. Donc, dans les moments difficiles, on revendait les anneaux d'or. On a fait le film, s'est appelé « Les anneaux d'or » parce que c'était l'histoire de ces femmes qui faisaient la quête des anneaux d'or auprès des femmes tunisiennes, qui les portaient en banque pour que la banque leur avance de l'argent pour qu'elles deviennent propriétaires du bateau qu'elles achetaient aux Italiens, et qui était le bateau sur lequel leur mari tunisien pouvait continuer à faire la pêche. Bon, il y avait donc des filles qui étaient venues de Tunis, qui ont... Si je raconte tout ça, c'est aussi pour les jeunes, là, pour dire qu'en en fait, il y a toujours des sujets qui sautent aux yeux, comme ça. On dit, ça, il faut faire un film là-dessus. Et je pense que pour vous aussi, vous rencontrerez un jour, dans la vie réelle des gens, des sujets qui vous sauteront aux yeux comme ça et avec lesquels vous aurez envie de faire des images pour transmettre quelque chose, pour transmettre une histoire que vous avez, que vous tenez à transmettre parce que vous l'aimez, parce que voilà. Et là, j'ai trouvé cette histoire particulièrement intéressante et donc je l'ai tournée. Côté un petit peu marrant de l'histoire, c'est que cette fille que j'avais vue et qui était donc arrivée, comme toutes les autres jeunes tunisiennes, avec des habits de madiliennes, de femmes de Madia, avec le voile, avec le... quand je l'avais vue, elle ne savait pas bien tenir son voile comme ça. Je me dis, bon sang, elle est drôlement belle, on va axer quand même, là, mettre un petit peu un grain de beauté dans le film. Et donc, j'ai parlé à cette fille par l'intermédiaire, à l'époque, je ne parlais pas encore arabe, j'ai parlé avec elle par l'intermédiaire de l'interprète arabe, qui lui traduisait en arabe ce que je disais à l'interprète en français. Et j'ai mis 2 jours avant de m'apercevoir que les conseils que je disais sur le plan de la mise en scène, ce que je demandais à la fille de faire, l'interprète traduisait, elle comprenait ce que je disais à l'interprète, mais elle ne comprenait pas ce que l'interprète lui disait parce qu'elle ne parlait pas du tout arabe. Et alors au moment quand même de régler le petit salaire qu'on donnait à toutes ces filles pour la figuration, j'ai dû lui demander son nom. Elle m'a dit, je m'appelle Claude. Je lui ai dit, Claude, de quoi le nom? Elle m'a dit, Cardinal. Et c'était Claudia Cardinal. Elle avait 17 ans, 16 ans, et c'était la première fois qu'elle se trouvait devant ses copines de Madia, qui étaient en classe avec elle à un lycée franco-tunisienne de Tunis, l'avait emmenée là, bon, et puis les femmes les avaient habillées tout en madoubienne, donc voilà. Et elle raconte ça dans son truc en disant qu'il y avait un charmant jeune homme qui lui a demandé de faire du cinéma, masque un petit peu la réalité, là. Mais voilà, et puis ensuite, alors, comme le film a été présenté à Tunis, les gars ont trouvé que c'était très bien. Comme il y a eu l'élection d'une Miss Italie de Tunisie, les gens ont dit, ah ben, il faut que tu te présentes, toi, t'es belle dans le film. Dans... Bon, elle s'est présentée, elle a été élue Miss Italie de Tunisie, et elle m'a demandé de venir discuter avec ses parents, parce que il y avait les gens qui lui ont donné le titre de Miss Italie de Tunisie lui proposaient de faire des études pour être actrice de cinéma
En Italie.
Et donc c'est moi qui ai été chargé d'aller convaincre ses parents qu'il fallait la laisser faire ce métier en allant en voilà. J'ai des petites anecdotes, et elle raconte tout ça aussi dans son livre qui s'appelle « Moi Claude, toi Claudia ».
Et tu disais tout à l'heure dans la voiture qu'en fait le gouvernement tunisien qui t'avait payé le film,
oui,
avec l'argent que tu as eu sur ce film, tu lui as acheté des bobines pour aller filmer
en Algérie. Oui, pour passer, parce que je ne voulais pas les demander à quiconque, je voulais pouvoir librement filmer. Pourquoi ? On m'avait dit en France, j'avais fait un petit film à la Bibliothèque nationale sur la conquête de l'Algérie. Et dans cette... le film s'est appelé Une nation, l'Algérie. C'était avant... J'ai commencé à le filmer avant les luttes pour l'indépendance, avant le 1er novembre 1954. Et j'étais à la Bibliothèque nationale le 1er novembre 1954, où j'ai appris que la révolution... La lutte pour l'indépendance commençait en Algérie. Et c'est là que je suis parti en Tunisie, que j'ai fait... Mais j'avais terminé le film en France. Et à la fin du film, je disais, voilà comment ça s'est passé la conquête. C'est dans le sang, c'est dans les exactions. C'est... Et la Tunisie redeviendra sûrement indépendante. Elle a été indépendante avant 1830. Elle redeviendra indépendante, à coup sûr. Maintenant, peut-être conviendrait-il de discuter avec les gens qui se battent pour cette indépendance. Et j'ai été poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, parce que je disais dans un film que trois départements français allaient devenir indépendants. Bon, et là, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir sur place. Je n'avais pas d'argent pour tourner un film là. J'ai donc proposé à la Tunisie nouvellement indépendante de faire le film qui a été le premier film de Claudia Cardinal, mais aussi le premier film de la cinématographie tunisienne, primé au Festival de Berlin. Et puis voilà, quoi. Ça m'amuse de raconter tout ça, mais en même temps, je pense que le cheminement pour mener au cinéma... il faut dire comment on est arrivé à faire des films. Comment finalement, de film en film, un jour, parce qu'on s'opposait au film que je faisais, j'ai dit maintenant je vais faire un film de fiction. Tous les gens s'opposaient au film que je faisais d'ailleurs. J'ai tourné pendant la guerre d'Algérie un film qui a été considéré comme le premier film national algérien, tourné au maquis, mais pour qu'on ne dise pas que ça avait été filmé par un breton communiste en plus, les Algériens m'ont foutu en tôle. Et j'ai été 25 mois dans une cellule de condamnés à mort de la révolution algérienne avant que les Algériens ne me sortent et disent « mais c'est lui qui a fait le film ». Bon, il y a eu un changement à la tête de la révolution algérienne et du coup je suis devenu le gars à qui on demandait de former des cinéastes algériens pour demain, pour... voilà. Et c'est comme ça que j'étais directeur du Centre national du cinéma algérien, créé en 1962, après avoir, entre 57 et 58 et 60, passé deux ans, 25 mois, dans une prison de condamnés à mort algérien. Voilà. Alors, c'est des petites... Je suis resté trois ans en Algérie, Et quand je suis rentré après, ayant montré qu'on pouvait faire un cinéma national en formant des jeunes assez rapidement, j'avais envie de tourner en France. J'ai tourné en France, mais sur quoi ? Sur ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire la vie des travailleurs algériens en France. Et j'ai tourné deux films qui, tous les deux, ont été primés dans des festivals internationaux, Les Trois Cousins et Les Ajoncs, qui ont fait sortir un acteur algérien qui est, à mon sens, qui était un très très grand acteur, qui est mort après parce que, tournant en France dans beaucoup de films, c'est un milieu où il n'avait pas l'habitude de vivre, et il a beaucoup bu, et finalement il est mort complètement alcoolique dans un hôpital français. Et c'était le plus grand acteur, réalisateur algérien. On sort maintenant le seul film de long métrage qu'il ait tourné, qui s'appelait Mohamed Sinet. Et il y a le premier grand cinéma public en Algérie, c'est la salle Mohamed Sinet. Maintenant, ils ont donné le nom de ce gars qu'on a laissé mourir parce qu'il n'avait pas d'argent pour tourner, parce qu'il n'y avait pas de gens qui le soutenaient, parce que, bon, et il a tourné dans des très grands films français, comme représentant l'Algérien de base, bon. Et puis voilà, toutes les histoires se sont un petit peu enchaînées. Quand je suis rentré, on m'a dit que j'ai créé l'unité de production cinéma Bretagne parce que je pensais que c'était pas seulement à Paris qu'on pouvait faire du cinéma et qu'on pouvait travailler librement à l'endroit où on était né. Et j'ai créé dans mon village natal l'unité de production cinéma Bretagne. Et puis on m'a dit oui, mais les Français qui ont vécu la guerre d'Algérie, tu racontes comment les Algériens l'ont vécu là, comment les Français l'ont vécu aussi. Et j'ai tourné à ce moment-là, avoir 20 ans dans les Aurès, qui a été primé au Festival de Cannes, avec des gens qui ont démarré comme acteurs là aussi, surtout Philippe Léotard, qui est devenu un très très grand acteur après, et dont le frère, mais ça n'a rien à voir, dont le frère est devenu ministre avant d'avoir quelques problèmes.
Donc, je te laisse désaltérer deux secondes, parce que je vous jure que quand René Vautier parle, il peut parler 4 heures sans s'arrêter, sans boire, sans s'arrêter. Il y a une force extraordinaire. Alors, peut-être on peut commencer, peut-être quelques questions.
Je reprends là, mais je reprends pour terminer, pour vous montrer que quand même j'arrivais à la fin. Donc, à partir de ce truc, avoir 20 ans dans les OS, on a lancé une série de films dont certains ont disparu, ça a fait, malgré tout, j'ai montré qu'on pouvait faire des films avec acteurs. On a fait un autre film avec acteurs qui a été primé aussi au Festival de Cannes et qui a été acheté pour que personne ne le voit, qui a été acheté par le patron des patrons français, dont je ne me rappelle plus le nom parce qu'avec l'âge,
C'était avant lui.
Bon, et il avait une petite boîte de production pour laquelle il achetait tous les films qu'il ne voulait pas qu'ils soient vus par le public.
C'était quel film, celui-là?
Voilà. C'est...
Un trou.
Me rappelle plus. Oui, un trou. Non, il y a beaucoup de trous quand on a 82 ans ou presque. Il y a des trous comme
ça. Alors, n'oublie pas de nous dire quand même le premier film auquel tu as participé, qui était un film collectif avec Louis Dakar, qui parlait de la grève des mineurs.
Oui, c'est ça. Ça, c'était quand j'étais
47, quand même,
quand j'étais encore à l'IDEC, je faisais déjà des films pour les enfants et sur les enfants. Et il y a eu la grande grève des mineurs, donc, de 47. Et je suis parti avec une caméra que j'avais piquée à l'IDEC, que j'avais empruntée à l'IDEC, où j'étais étudiant. J'ai été tourner le film pour avoir collecté à partir du film de l'argent pour qu'on puisse sortir les enfants de mineurs de la zone de crise Et il y a eu des enfants de mineurs qui sont venus comme ça passer des vacances dans des tas de centres de vacances. Mais en tournant là, j'ai trouvé des copains qui tournaient, eux, le film pour le syndicat des mineurs CGT. Et qui m'ont dit, toi tu as une autorisation de tournage. J'ai dit, ouais, elle est un peu fausse, mais enfin, théoriquement, je fais un film sur les enfants, sur un truc. Ils montrent, ben ça va, on va te confier toute la pellicule qu'on tourne, parce que nous, on n'a aucune autorisation de tournage. Et c'était des très grands opérateurs. Il y avait André Dumaître, il y avait, enfin, je ne cite pas les noms de tous, Sacha Vierny, Pierre Lhomme. Et j'ai ramené donc toute la pellicule, et ça a donné un film qui a été entièrement monté illégalement et qui s'est appelé La Grande Grève, la longue lutte des mineurs. Voilà.
Qui était tourné à Dunkerque.
Moi, j'ai été arrêté à Dunkerque, mais comme j'étais le plus jeune et le plus con, j'étais le seul à être arrêté parce que je m'étais endormi dans un local syndical qui a été occupé par l'armée. Alors ensuite, bon, j'ai continué, et finalement, le film a été terminé, pas par moi, c'est un film collectif, réellement collectif. Mais quand il s'est agi de trouver des noms pour obtenir une autorisation de projection, il y a des gens qui ont donné leur nom. Il y a Louis Daquin, qui nous avait beaucoup aidé, c'est vrai, qui est un réalisateur connu à l'époque. Il y a Roger Vaillant, qui est un écrivain connu, qui a signé un commentaire qui n'était absolument pas de lui. Il fallait peser. Et c'est comme ça que le film a eu son visa et a entraîné ensuite, d'ailleurs, comme il avait eu un visa commercial, on a fait... ensuite, il y a des gens qui étaient mis en accusation par les mineurs dans le film, des ministres, il y a un monsieur Pleven qui était... que les mineurs traitaient à juste titre d'assassin. Et vous verrez le film, je pense.
Ce soir, oui.
Bon. je vais m'y mettre, là. Contribué aussi à diffuser le film ensuite, et en particulier à suivre la demande qui avait été faite par des représentants ministériels à l'époque, dont M. Pleven, et qui voulait que l'on crée, pour interdire aux syndicats de se servir du cinéma pour faire passer les luttes syndicales, ils ont fait passer une loi en 1948 qui disait que les films, même les films tournés par les syndicats, ce qui était légal depuis 1944, les syndicats avaient le droit de tourner les films pour les projeter devant leurs adhérents, sans avoir de visa à demander. Et là, il y a eu une loi, à partir de ce film sur les mineurs, qui disait, même les films tournés par les syndicats doivent demander au Centre national du cinéma et au ministère de l'Intérieur un visa non commercial. Et le dernier film qui a été tourné sans visa non commercial, c'est celui qui a provoqué justement cette demande de nécessité de visa. Et malheureusement, parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup et qui se sont beaucoup intéressés au cinéma, Madame Mitterrand par exemple, malheureusement, le premier, la signature de cette demande de décret sur le journal officiel, il y a Pleven en tête, et en bas, il y a rédigé par le sous-secrétaire d'État à l'information, François Mitterrand. Voilà. Alors tout ça, ça fait... c'est des petits trucs. Après, j'ai retrouvé François Mitterrand. On a participé ensemble à un congrès sous l'égide de Mikis Theodorakis en Crète sur la liberté d'expression cinéma. Bon, voilà. Ce qui veut dire simplement qu'il y a eu une alternance permanente, là, j'ai fait les films que je voulais faire en donnant la parole et l'image aux gens à qui je voulais la donner. Il se trouve que ce n'est pas du tout le moyen de faire du bon cinéma. Maintenant, là, pour régler les histoires, j'ai eu des films que j'ai tournés qui ont été interdits dernièrement, là. Interdits, non pas parce qu'on me refusait le visa, interdits parce qu'il y a des responsables de salle qui disaient « Non, c'est un film, vous savez, c'est Vautier qui a fait tel ou tel film. Ah, ce film-là qui est sur Vautier, on va l'interdire. » Ce n'était pas moi qui l'avais fait. C'était fait par des jeunes qui disaient « Vautier, il a quand même un cinéma intéressant. On va le faire parler de son cinéma. » Vous voyez, comme ça se fait ici. Mais il n'y a pas de censeur ici. Et là, il y avait un censeur pour les images. Et le film René Vautier, cinéaste franc-tireur, réalisé par deux jeunes réalisateurs, a été interdit de projection dans une salle où il était annoncé. Il a été interdit par les gens qui l'avaient annoncé, parce qu'il y a des gens qui ont venu dire « Oui, vous ne savez pas, Vautier, ce qu'il a fait pendant la guerre d'Algérie, il a tourné aux côtés des Algériens, pendant les trucs des mineurs, il a tourné avec les mineurs, pendant... » Bon, Vautier devenait le diable à la caméra. Et là, ils ont interdit le film, et je pense que c'était complètement illégal. Donc, j'ai porté plainte. Ça a duré 4 ans. Et il y a 3 mois, j'ai gagné définitivement, c'est-à-dire que là, voilà. Seulement, en même temps, j'avais plus de société. Donc, c'était des gens qui tournaient des films sur moi, ou à partir de choses que j'avais, j'avais tournées. Et ici, je retrouve un monsieur qui a eu exactement les mêmes problèmes, et qui est mon frère d'image depuis maintenant... 60 ans, et qui s'appelle Paul Carpita, et qui est un très, très, très grand bonhomme de cinéma, mais qui aussi est resté parallèle. On parlait de cinéma parallèle. Oui, il a fait du cinéma parallèle, mais qui reflétait des réalités qui, elles, étaient des réalités évidentes. Et je viens d'aller voir Paul qui va mal. Ce que je demanderais là, c'est très bien qu'il y ait des jeunes réalisateurs qui sortent, mais que Paul puisse vivre assez longtemps pour classer les films qu'il a fait et peut-être contribuer encore à les montrer, ou peut-être même en faire un autre, puisque c'est son projet. Ben, il faut que ce soit tous les Marseillais qui veillent sur lui. Voilà, le prêche est terminé. Maintenant, on va fermer la porte de l'église. On va peut-être projeter quelque chose, ou je ne sais pas. Mais
on va peut-être, si voilà, tu veux, faire un échange avec la salle.
Voilà.
Hein, quelques questions vont être posées, je pense.
Non, mais moi, maintenant, je voulais simplement dire que il était prévu une discussion sur les films que les jeunes ont fait. Bon, il se trouve que là, pour moi, maintenant, on est en train de chasser les films que j'ai faits. Et simplement... quand on me demande de venir au nom des films que j'ai faits, discuter avec des jeunes qui sont encore en devenir, je suis très content de venir. Non pas pour dire imiter Vautier, mais pour dire maintenant, essayez quand même de vous exprimer. Et le dernier message, c'est que maintenant, quand même, on gagne. On peut gagner en exprimant les choses qu'on a envie d'exprimer. Et dernier point encore, c'est le côté un petit peu marrant. Il y a un monsieur, un jour, qui a fait une émission sur l'Algérie. Et ce monsieur avait fait venir des gens qui s'appelaient Henri Allègue, Et il a fait une très belle émission sur ces gens qui avaient écrit sur l'Algérie, qui s'étaient battus pendant la guerre d'Algérie, qui avaient quelquefois créé des réseaux de soutien aux Algériens qui voulaient créer leur indépendance. Et puis, y a un moment donné, il s'arrête, et ça passait sur antenne, en direct. Et il dit, on m'a demandé pourquoi je n'avais pas fait appel là avec d'autres Algériens et Français qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie, pourquoi je n'ai pas fait appel à Vautier? Ce n'est pas un oubli, c'est que je veux consacrer une émission complète à discuter avec Vautier, que je respecte beaucoup, sur ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie et qu'il a reflété. Bon, et ce gars, très honnête, d'autant plus honnête que le gars qui m'avait fait foutre en tôle pour mon premier film s'appelait quand même François Mitterrand, le gars qui disait ça et qui est maintenant ministre de la Culture s'appelle Frédéric Mitterrand. Et il n'a jamais fait appel à Vautier pour quoi que ce soit depuis, mais ça ne fait que 30 ans, il a encore le temps maintenant, des ministres. Voilà, c'est un hachis d'informations que je donne comme ça, mais qui permet peut-être de dire qu'aujourd'hui, là, il y a un truc pour lequel je n'ai pas encore tout à fait gagné. On a interdit la projection. Il y a une dame qui a essayé d'interdire la projection d'avoir 20 ans dans les Aurès, film primé à Cannes, et qui a dit c'est un film anti-français et qui attaque toutes nos convictions. Et c'était une élue du Front National. Alors, comme elle est intervenue publiquement pour dire tout le mal qu'elle pensait de Vautier, j'ai dit, est-ce qu'elle a le droit de dire du mal, non seulement de Vautier, mais d'autres films, l'un qui avait été fait par un Algérien, un autre qui était un exposé fait par un prof de fac en Sorbonne, mais qui heurtait ses convictions, disons ses convictions lepénistes, bien qu'elle ne soit plus lepéniste maintenant, elle dit qu'elle a évolué. Bon, toujours est-il que là, on a porté plainte collectivement tous les trois, et on a gagné aussi. Elle fait appel, mais on va gagner. Donc, dire qu'aujourd'hui, il y a, je crois, une possibilité de se battre, avec exemple à l'appui, pour que le cinéma, pour que l'image reflète une réalité. Et l'une des choses dont j'aimerais bien que les jeunes discutent maintenant, c'est est-ce qu'il faut continuer à faire du cinéma comme hier? Ou est-ce qu'aujourd'hui, le cinéma n'est pas en train d'exploser avec des gens qui se trimballent avec leur appareil téléphonique, et des appareils téléphoniques qui peuvent faire des images aussi, qu'ils peuvent échanger avec d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité d'expression par l'image à conquérir? Et là, j'avoue que je suis complètement dépassé. Je lance le truc comme ça pour que les jeunes en discutent entre eux. Mais aujourd'hui, il y a effectivement un champ de possibilités d'action pour défendre des idées, pour défendre des convictions, pour qui s'ouvre en s'appuyant aussi sur l'image. Alors voilà, le prêche est terminé. Nous fermons.
Ça, c'est surtout pas un prêche. Hein, je vois que tout le monde est absolument attentif à ce que tu dis. Peut-être que tu vas te désaltérer. Première pause, première écoute, et on va peut-être renvoyer des questions, un échange dans la salle.
Pour tout dire quand même maintenant, si je suis tellement libre d'expression, c'est que j'ai appris il y a 3 mois qu'on ne me soignait plus pour un cancer, qu'on n'y pouvait plus rien, que le cancer allait gagner, mais qu'en attendant, je n'avais plus à m'abrutir avec des médicaments parce que ça ne servait plus à rien, c'était trop tard. Donc, en plus, maintenant, je peux et je dois parler vite pour les gens qui ouvrent leurs oreilles, peut-être parce que j'ai aussi des choses à transmettre. Voilà.
Qui veut intervenir ? Allez-y, lancez-vous, profitez-en. C'est pas tous les jours que René Vautier vient à Marseille.
C'est pas la première fois non plus.
Je voulais vous demander pourquoi vous avez dit tout à l'heure que donner la parole et l'image aux gens à qui vous avez envie de donner la parole et l'image, que c'était pas la bonne façon de faire du cinéma. Vous avez dit ça tout à l'heure.
J'ai dit ça.
Ouais. Alors ça m'a interpellé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Non, je veux dire que c'était pas essayer de leur donner la parole. C'est quand même rester le pivot. C'est quand même resté le pivot. C'est quand même, je donne la parole aux gens, mais si je garde la possibilité du montage, je garde la possibilité de gauchir cette parole. Et je crois simplement maintenant qu'il y a une possibilité, avec des moyens beaucoup plus légers, de donner la parole aux gens pour qu'ils puissent la transmettre plus directement. Voilà, ça n'empêche pas de faire des films léchés. Ça n'empêche pas de... ça donne peut-être, ça peut donner naissance à une nouvelle forme. Vous savez, pendant des siècles, on a pensé que seuls les clercs avaient le droit d'écrire, c'était pas la peine de donner aux autres, et c'était même dangereux peut-être de donner aux autres la possibilité de s'exprimer par l'écriture. Bon, ces barrages n'ont pas complètement sauté, mais enfin, on peut quand même, aujourd'hui, on peut quand même écrire. Est-ce que demain, on ne pourra pas aussi filmer? C'est-à-dire parler directement en images. C'est pour ça que je dis que là, le cheminement que j'ai pu faire en me trouvant à côté de gens en lutte et en leur disant « je vais refléter ce pourquoi vous luttez, mais expliquez-le-moi, parce que je ne partage pas tout ce que vous avez à dire. Je ne partage pas toutes les raisons de vos luttes. Je vis d'une autre façon. Mais vous, vous avez... » Donc là, il passait par moi et mes amis, et puis les gens. Okay. Bon, et puis, j'ai quand même contribué aussi à former en Algérie, par exemple, mais aussi en Tunisie, au Québec, des gens qui ont utilisé l'image directement pour s'exprimer sans passer par moi. C'est pour ça que je dis il y a une possibilité d'aller plus loin. J'ai pas eu peut-être une volonté suffisante pour former des gens en dehors de moi, sauf quand j'étais obligé de le faire en Tunisie ou en Algérie par exemple, parce que je n'ai jamais fait un film après l'indépendance de l'Algérie. J'ai formé des Algériens pendant 3 ans ou 4 ans, je n'ai jamais fait un film à leur place. Bon, mais quand je suis rentré en Bretagne, j'ai souvent parlé à la place des pêcheurs qui avaient des problèmes, à la place des gens qui vivaient dans le mazout parce que la mococadis s'était foutue sur des rochers. J'ai parlé à leur place, là, avec eux. Et maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est eux qui financent le tirage des films que j'ai fait avec eux et qui disent c'est parce que c'est nous qui sommes là-dedans. Et le truc le plus évident de cette transmission d'expérience, c'est que le film Marée noire et colère rouge on a coupé tous les crédits pour le film, les crédits au laboratoire qui étaient attribués par le CNC. Quand ils ont vu ce qu'on disait dans le film, tout a été coupé et le film est sorti quand même. Et puis, il est sorti au moment du naufrage de l'Exxon Valdez dans la baie d'Hudson. Exxon Valdez chargé lui aussi de pétrole, comme la Cocadis était chargée de pétrole, et qui faisait la même pollution là-bas. Et les Inuits l'ont demandé parce que c'était sur leur territoire, la pollution là-bas. Et puis travailler avec les Inuits là-dessus. Et il y a un film qui s'est appelé Exxon Valdez et qui a servi au procès que les Inuits ont fait à la société de transport pétrolier Exxon Valdez et qu'ils ont gagné. Et puis il y a eu un naufrage sur les côtes espagnoles. Et les Espagnols ont demandé à la fois le film Marée noire et colère rouge tourné par les Bretons, le film tourné par les Inuits, et l'ont projeté en Espagne en portant plainte, en disant eux aussi ce que disaient les Brestois et les gens du Finistère dans la lutte contre la marée noire, les pollueurs doivent être les payeurs. Bon, et puis voilà. Et là, ça a continué comme ça. J'ai tourné, les gens ont tourné un truc en Indonésie sur une pollution du même genre. Bon, et ils ont gagné maintenant, c'est devenu une notion ancrée dans la justice américaine d'abord et dans une espèce de justice internationale, en cas d'accident que l'on peut imputer à une faiblesse du bateau transporteur, les pollueurs doivent être les payeurs, ils doivent payer les frais de nettoyage. Bon, et tout ça, c'est parti d'un film. Bon, et maintenant, sur ce plan-là, c'est les gens de Brest qui ressortent le film parce qu'ils disent qu'il y a eu aussi une volonté d'utiliser la pollution comme arme de guerre. Pendant la guerre du Liban, les avions israéliens ont bombardé exprès les cuves de pétrole pour provoquer une pollution qui interdirait la pêche sur 150 km de côte au Liban. Bon, et là, alors, et ils ont demandé à voir les films. Tous les films qui avaient été tournés là-dessus sont projetés au Liban. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Parce qu'il y a eu la parade immédiate. C'est pas les Israéliens, c'est-à-dire les pollueurs, qui ont payé le nettoyage là-bas. Il y a eu une intervention des Américains, des Français et des Anglais pour payer le nettoyage. Pourquoi? Je ne sais pas, mais le film, maintenant, le dernier film mis en, où on m'a demandé d'expliquer ça, qui s'appelle aussi « Marée noire et colère rouge », qui est sorti à 1500, ça y est, je vois grand, 1500 exemplaires en cassette vidéo, en DVD. Maintenant, il pose la question. Et là aussi, il est utilitaire sur ce plan-là. Et il y a des tas de choses, enfin, je passe maintenant parce que... C'est pour vous dire simplement que pour les films que vous faites aujourd'hui, même si vous avez des problèmes pour les faire, mettez-vous bien dans la tête qu'un jour ou l'autre, s'ils sont réellement utiles, un jour ou l'autre, on reconnaîtra leur utilité. Et on reconnaîtra le courage des gens qui les auront faits.
Voilà. Est-ce que vous voulez justement poser une question? Donc, un jeune réalisateur, producteur dont on verra le film tout à l'heure.
J'ai justement une question de production. Je veux savoir, tout au long de votre vie, comment est-ce que vous avez réussi à financer vos films? D'autant plus, ça devait être d'autant plus difficile, à mon avis, que vous étiez censuré la plupart du temps. Donc, vous avez une image assez sulfureuse. Donc, le CNC, etc., les chaînes télé, je suppose qu'ils ne vous suivaient pas. Donc, je veux savoir comment est-ce que vous pouviez arriver à financer vos films quand ce n'était pas des films de commande, même si ça avait été un petit peu détourné par les syndicats, etc. Alors, comment vous avez fait pour tourner cette centaine de films toute votre vie?
On a fait un petit court-métrage un jour sur une lutte des ouvriers d'une usine à côté de Saint-Nazaire. Il y avait 1000 ouvriers qui étaient foutus à la porte comme ça dans une usine qui dépendait de je me rappelle plus le nom de, c'est pas une volonté de censure là, c'est qu'il y a une censure interne sans doute qui, bon, toujours est-il que les gars m'ont demandé de tourner un petit film avec eux là, et puis le petit film n'était pas suffisant, alors le petit film ils l'ont projeté à Saint-Nazaire, ils l'ont projeté à Rennes, ils l'ont projeté à Lorient. Ils ont dit, on a besoin d'argent pour continuer. Et ils ont trouvé 15 millions de centimes. Avec les 15 millions de centimes, on a fait un film qui s'appelle « Quand tu disais Valérie ». Parce que quand il y a un film, il y a des choses qui naissent avec le film. Quand on tourne sur une action, de l'action, il y a aussi des choses quelquefois poétiques qui naissent. Et là, le film s'appelle « Quand tu disais Valérie ». Parce qu'il y a une chanson qui ouvre le film et qui dit « Quand tu disais, Valérie, que ça changerait, Valérie, nous on savait, Valérie, que c'était de la bla, quand tu disais, Valérie, bon. » Et puis, quand le film a été terminé, et les ouvriers ont perdu. C'est-à-dire que c'était... une boîte derrière l'histoire, c'était l'usine de caravane camping, et c'était, bon, j'y vais, c'était Trigano qui était derrière. Et Trigano a quand même une force politique par ses alliances, par ses trucs de voyage, par... Bon, les ouvriers n'ont pas réussi à obtenir gain de cause. L'usine a été fermée et transférée en Ardèche. C'était ça qui les foutait en boule. C'était le début de la délocalisation des usines en France. C'était, et là, ils ont, les ouvriers ont perdu. Ils n'en veulent pas, ils disaient simplement, dans leur chanson même, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Et quelques années après, le monsieur qui était responsable de l'appui donné à Trigano, pour les ouvriers du coin, c'était Giscard d'Estaing. Et c'est ce qu'il disait à la fin du film. Giscard, de toute façon, tu n'emporteras pas en paradis. Bon, quelques années après, il y a eu 81, le changement politique. Bon, et à ce moment-là, le film a été... Et il est passé au Festival de Cannes. Il est passé partout. Et puis, il a gagné de l'argent. Les 15 millions ont été... On pouvait les rembourser. Bon, et on l'a dit aux ouvriers maintenant, tous les gens qui ont les petits papiers qu'on donnait pour participation de 1000 francs, autre chose. Bon, on leur a dit, bon, ben, on peut vous rendre de l'argent, pas encore la totalité, mais... les gars, unanimement, ont dit, non, il y a des femmes qui ont séquestré le patron de leur mari à 30 km de Saint-Nazaire, là. Et il faut les défendre, parce qu'elles passent en justice maintenant pour avoir séquestré le patron de leur mari. Et on a fait, avec l'argent qui nous restait du premier film, puisqu'on n'avait pas à rembourser les gens qui avaient payé, on a tourné « Quand les femmes ont pris la colère », qui a été aussi un film diffusé partout sur les luttes de femmes et qui ont gagné le procès. Qui terminait, dont on attendait le jugement à la fin du film, bon ben, elles ont gagné. Alors, ça, là aussi, le film, par la diffusion, nous a amené de l'argent, et on a pu dire aux gens qui avaient les pieds dans le mazout, au fin fond de la Bretagne, Unité de production cinéma Bretagne est avec vous, et hop, on a commencé à tourner avec eux, et puis, on a eu des appuis, des conseils généraux, on a eu des appuis, si bien que le film a pu être tourné malgré l'hostilité du Centre National du Cinéma. Bon, et puis là, alors, on n'avait plus un rond, parce que ça a quand même coûté cher, la campagne pour faire triompher les trucs. Et puis là, alors, on a fermé la baraque. On a fermé l'unité de production cinéma Bretagne, qui avait fait 5 films de long métrage en 10 ans, et 5 films engagés. Et ces films, eh bien, ils ont continué à exister. Mais on avait créé entre-temps la Cinémathèque de Bretagne pour la diffusion des films de ce genre que nous avions fait, d'autres que nous avions l'intention de faire avec d'autres structures, que nous avons fait avec d'autres structures. Et la Cinémathèque de Bretagne a essaimé. Après, c'est devenu une cinémathèque qui organisait la diffusion militante des films partout. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu continuer à faire des films, là et maintenant, bon, mais pas en étant payé au tarif normal des gens de cinéma, c'est vrai. On a fait le film « Un homme est mort », qui a été projeté pendant les grèves de Brest même, qui a été le premier film sur une grève projeté dans toutes les rues et sur tous les lieux qui étaient tenus par des ouvriers en grève dans Brest. Bon. Et puis il y a des gars qui ont raconté l'histoire maintenant, mais me dites, qu'est-ce qui reste de ton film? Je dis rien. Rien, si ce n'est qu'il y a un gars qui tournait un film qui s'est appelé « Vive les dockers », qui était, c'était à la même période, là, tu vois, dans les films de 45, 46, 47, hein, Le gars s'appelait Robert Mendoz et il a tourné pour les archives du Parti communiste un film sur les grandes grèves des dockers qui refusaient de charger les armes pour la guerre d'Indochine. Et il n'avait rien tourné sur Brest. Et moi, j'avais quelques images qui me restaient dans les chutes, parce que sur les 15 mètres, j'avais fait un montage de 10 minutes. Il restait donc 5 minutes qu'on a recherché, qu'on a retrouvé. Et dans le film de Robert Mendoz, il y a les images des ouvriers de Brest en lutte contre la guerre d'Indochine et contre aussi pour leurs droits syndicaux. Bon, il y avait ce système d'échange qui faisait que les films étaient réellement des films collectifs. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu. Et là, vous me demandez ce que je voudrais faire avant tout le temps.
Pas totalement disparu.
Raconter aussi des histoires de gars auxquels on demande « Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre d'Algérie ?» Et 12 gars sont interviewés dans comment s'appelait ce journal hebdomadaire je ne me rappelle plus, enfin peu importe, un truc de gauche, mais pas trop de gauche quand même, dont s'occupait Jean Daniel. Le Nouvel Observateur. Oui, à l'époque, ça s'appelait pas Nouvel, ça s'appelait France Observateur. Bon, et France Observateur a il y a une fille dedans qui a interviewé tous les grands réalisateurs de gauche de l'époque, pendant la guerre d'Algérie, pour dire qu'est-ce que vous avez tourné pour essayer d'arrêter la guerre. Et les 12 répondent, on a eu des projets. On a eu des projets de tournage, on voulait raconter ça. Pas un n'a tourné. Il y a un gars qui a commencé à tourner un film qui mettait en cause la guerre d'Algérie. C'est Alain Resnais. Qui va me sortir le nom, c'est un prénom.
Muriel.
Voilà. Bon. Et il a tourné Muriel avant la fin de la guerre. Mais son film n'est sorti qu'après la fin de la guerre. Pourquoi ? Parce que le producteur du film a dit, écoute, on attend un petit peu, tu finiras ce film-là après. Va donc tourner un film sur une histoire de Tchécoslovaquie, une histoire d'Allemagne, je ne me rappelle plus, qui était pas du tout mêlée à la guerre, qu'on pouvait sortir à n'importe quel moment. Et il a terminé ça avant de terminer le film, parce que le producteur savait qu'on allait vers la paix. Et il disait simplement, faisons pas de remous avant que ce soit la paix définitive, avant que ce soit l'arrêt complet des combats. Mais autrement, tout le monde a reculé devant l'idée de parler de la guerre d'Algérie.
De toute façon, le petit soldat était interdit. Hein.
Mais le petit soldat, oui, mais on vient de sortir à Paris maintenant, en Sorbonne, un film qui a eu lieu en Sorbonne il y a 3-4 ans. Et il y a Vautier et Godard, disons pour respecter la notoriété, Godard et Vautier. Et on parle du petit soldat. Et il y a des gens qui lui posent la question, pourquoi dans cette histoire de guerre d'Algérie que tu as abordée, les gars qui torturent, c'est les Algériens qui torturent un gars d'extrême droite. Mais un militant pour l'Algérie française. Il dit, mais je faisais un film sur les problèmes français. Et à ce moment-là, Nicolas, je me suis senti suisse et je suis rentré en Suisse. C'est le gars le plus finaud que je connaisse, Nicolas. Et les jeunes, les étudiants, comme ça se passait chez eux là, on montait le film qui a été projeté dans une autre truc, il y a, dans une autre structure étudiante, il y a un mois à peu près, qui a été projeté pour la première fois. Maintenant, là, voilà. Avec,
il y a une autre question là, qui était là, la dernière, non ?
Oui, ben moi tout à l'heure je voulais demander, mais c'est un peu juste avant que la dame prenne la question, enfin avant de reprendre ce que la dame disait, il y a aussi Adieu Philippine de Rosier quand même qui a parlé un peu de la guerre d'Algérie.
Non, non, il ne parlait pas de la guerre d'Algérie, il parlait d'un gars qui refusait. Rosier, en plus, il l'a fait un petit peu aussi. Parce que c'est moi qui ai préparé l'étudiant Rosier au concours d'entrée à l'IDEC. Mais moi je suis très jeune, et bien un petit peu moins jeune, dans la cinquième promotion, et moi j'étais déjà entré dans la quatrième. Et il a fait un film tourné en Corse, avec l'histoire des amours d'un gars avec deux filles, et puis qui se terminait effectivement par une très grande tristesse. Parce que le gars, à la fin, disait « Maintenant, je vais partir pour l'Algérie. » Voilà.
C'est tout ce qu'on
c'est, oui, c'était... Mais c'est vrai qu'il en parlait. Oui.
On va devoir arrêter.
En fait, la question, en fait, était quel est le film que vous auriez voulu faire, mais que vous n'avez pas fait ?
Aucun. Non, parce que j'ai fait des films. J'ai fait des films. J'ai mis temps pour certains. J'en ai présenté certains. Maintenant, je sais des films que je recherche parce que je les ai plus que les autres et puis que je ne trouve pas. Mais il y a des trucs qui renaissent comme ça d'une manière assez marrante. Il y a un film, qu'on vient de retrouver à la Cinémathèque de Bretagne, qui fait un très gros boulot là maintenant. Simplement, en semant le bruit qui recherche les films de Vauquier. Et il y a un gars qui écrit en disant, voilà, j'étais adjoint au maire de tel patelin, on a projeté un film qui était assez marrant parce qu'il y avait dedans la famille Giscard. Et c'est au moment où Giscard a été élu. Et il avait fait faire un film qui était à la fois un film publicitaire sur lui et sur sa famille, et puis un film qui pouvait, s'il était élu, être envoyé dans tous les pays étrangers pour dire « voilà le nouveau président de la République française ». Il avait soigné ça. Il y avait des coupes dans le film. Et les coupes étaient dans l'endroit où on conserve l'audiovisuel français.
Lina.
Oui, enfin dans un truc de Lina qui est au bord de Seine. Hein. Et puis les gars, quand il a été élu, il y a des gens qui sont venus de la part dire vous nous préparez. Tout ce qui touchait au film qui a été tourné pour M. Giscard d'Estaing, parce que on ne veut pas que ça traîne, on va tout récupérer. Et les gars ont dit, il faut qu'on prenne un peu de temps pour ranger. Oui, d'accord, mais donc on passera, vous revenez dans 3 jours. Là. Et puis il y a un qui me téléphone en disant, René, on ne va pas laisser partir tout ça, on ne va pas laisser... Vous disiez de toutes les chutes, c'est vrai que c'est assez ridicule, mais qu'est-ce que t'en ferais, toi ? Je dis, moi, je les mettrais quelque part, je sais pas ce que j'en ferais encore, il faut que je les voie. Mais il dit, viens, on va les mettre dans le couloir, t'as qu'à venir, et puis tu prends tout. Et je me suis retrouvé avec toutes les chutes du film pro-Giscard, tourné à l'initiative de Giscard lui-même. Bon. Et puis c'était tellement marrant de voir des séances de discussion. C'était la famille française, c'était le truc de bon. En même temps, je me suis dit comment on peut utiliser ça. Il y a des gens qui sont en train de se battre maintenant sur des terrains de camping, sur des corps de toile, sur la côte provençale. On veut les faire fermer, les trucs. Alors, on va faire pour entrer dans ce sujet, on va reprendre toute la famille Giscard qui discute en famille pour savoir dans quel château familial on va aller passer les vacances. Et on a évidemment imité un petit peu les voix, mais on a gardé les images, et le film démarre là-dessus, et puis ça se termine après les discussions âpres et les bagarres pour défendre leur coin de tente au bord de mer des ouvriers de différentes boîtes françaises. Le film commence par les réunions de la famille princière qui dit « Ah ben on pourrait peut-être aller à tel endroit, on a bien ce château là, où on pourrait se faire inviter chez des cousins à tel autre château, ou bien, bon. » Puis on passe sur les gars qui se bagarrent pour la défense de quelques lopins au bord de mer où ils peuvent mettre leur tente. Et puis ça se termine par, finalement, Giscard dans les jardins de l'Élysée qui se promène avec son chien et qui dit ben, « De toute façon, ici, c'est pas mal non plus. » Voilà. Et tout ça, on l'a récupéré par un gars, et une seconde, par un gars qui a envoyé à la Cinémathèque de Bretagne, qui se charge de toutes les recherches, là, un truc disant, moi j'ai ce film-là, que j'ai projeté, mais qui était produit par Tourisme et Travail. Et quand je l'ai renvoyé à Tourisme et Travail, qui était une association de tourisme populaire, qui avait effectivement produit le film que j'avais réalisé, le gars disait j'ai le film en 16 mm. Je l'ai envoyé à Tourisme et Travail, on m'a répondu, il n'existe plus à l'adresse indiquée. Alors j'ai gardé le film en 16, mais mon appareil de projection 16, je ne l'ai plus. Donc maintenant, si vous réclamez un film à la Cinémathèque de Bretagne, je veux bien échanger le film que j'ai gardé si vous me faites une copie que je pourrais passer sur mon lecteur VHS. Donc, et alors, ils ont échangé une copie 16 à la Cinémathèque, ils ont gardé la copie 16, et ils ont renvoyé au gars une copie VHS. Voilà. C'est maintenant une période assez marrante quand même, quand un vieux bonhomme quête les souvenirs de tout ce qu'il a pu faire et qui en fait, dans certains cas, lui plaisait bien, quoi.
Heureusement.
Oui, il y a peu de choses que j'ai faites qui ne me plaisent plus. Mais encore faut-il les récupérer, quoi.
Voilà. On va vraiment arrêter, c'est parce qu'il y a une programmation
de la remarque que vous venez de faire.
Excusez-moi. Depuis 8 heures, René parle, depuis 8 heures, il faut quand même le laisser restaurer, quand même. Il faut quand même le laisser un peu restaurer.
Oui, non, une question très simple, donc, pour prolonger ce que vous venez de dire à l'instant. Sinon, il y a très peu de choses lesquelles j'ai des regrets, justement. Est-ce que, c'est un peu le pendant de la question tout à l'heure, est-ce que maintenant, avec le recul, donc 180 films et quelques, ce que vous citiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des films sur lesquels vous auriez peut-être préféré ne pas les avoir faits, ou que vous, qu'avec le recul, vous sentez peut-être que vous êtes trompé, ou quelque chose comme ça?
Non, des films que j'avais abandonnés, oui, parce que, et qu'on a retrouvé un petit peu en morceaux, un film sur que j'ai fait quand j'étais encore à l'ITEC, avec la caméra d'ITEC, et j'étais rentré chez moi en Bretagne, et j'avais des copains de maquis qui enseignaient à l'école normale, où il y avait des classes, je ne sais pas comment ça s'appelle, des classes expérimentales qui sont rattachées à l'école normale d'instituteurs, et où les futurs instituteurs vont travailler avec des instituteurs patentés qui leur servent un peu de mentor pour entrer dans le métier. Et il m'avait dit, est-ce que on n'a pas les films géographiques sont très très mauvais. Tous, ils ne nous servent à rien ici, il n'y a pas de bons films géographiques. Or, ça devrait quand même être possible de faire un film qui attire l'attention sur ce que les gosses doivent bien se mettre dans la tête quand ils étudient, par exemple, une rivière. Depuis où ça naît, où ça... Alors on a décidé de faire un film sur une rivière bretonne, bon, l'Audet, rivière bretonne,
Et en discutant avec les gosses, on s'était rendu compte, avec les enseignants d'abord, des points qu'il fallait garder cette année dans des grands marais au centre de la Bretagne. Ça traverse, d'abord, c'est un chevelu de petits ruisseaux qui fait un ruisseau plus large, qui prend des allures de torrent pour traverser soit les monts d'Arrée, soit les montagnes noires, selon que la rivière a choisi tout le camp vers le nord ou vers le sud de la Bretagne. Puis il y a la traversée, quand ils ont traversé les montagnes en prenant des allures de torrent, il y a, et puis finalement, il y a la traversée de la ville de fond d'estuaire, pour l'Odet c'était Quimper, avec des ponts partout, avec des passerelles. Et puis ensuite, il y a un estuaire largement remonté par la marée. Bon, à partir de là, on s'est dit, bah, comment on peut faire si on prenait notre prof de sciences nat, qui arrive avec son chapeau de paille, son truc, et on sait qu'il va, avec un avenot, enfin, je ne sais pas comment on dit avenot en français, ouais. Mm-hmm. Ouais. Donc il va avec son avenot chasser les papillons qu'il collectionne dans notre classe où on nous enseigne les sciences nat. Alors on pourrait partir de là. Et avec ses aventures, d'abord il s'embourbe, puis il saute par-dessus des petits ruisseaux, puis c'est trop grand, il tombe dedans, mais le courant s'accélère et il est ballotté entre les rochers de la partie des monts d'Arrée. Puis il est laissé dans la plaine alluviale, puis comme il a perdu son chapeau et qu'un papillon qui s'est posé dessus, il veut attraper et le chapeau, le papillon, il court en passant par tous les ponts de la ville, le chapeau file au gré du courant, mais comme il y a plein de méandres après, donc, il coupe les méandres et il guette l'arrivée, et puis le chapeau s'arrête à côté parce qu'il remonte avec la marée. Quand la marée change, et tout y était. Et on a tourné ce film, et puis les enseignants ont été éberlués parce que les gosses racontaient dans la cour, jouaient à se raconter l'histoire de la rivière, sans rien oublier du tout. Bon. Et puis on s'est dit, voilà, c'est une méthode d'enseignement qu'on a trouvée, là, c'est bien. Le directeur de l'école normale a dit, ça s'appellera la méthode d'enseignement de la géographie l'école normale de Quimper. Mais il fallait l'accord des inspecteurs d'académie qui étaient réunis à Rennes. Alors, j'ai été convoqué pour leur présenter le film. Mais je n'ai pas eu le droit d'entrer dans la salle parce que ça ne se fait pas. C'est une projection pour les inspecteurs, le collège des inspecteurs d'académie. Bon. Et puis je les entendais rigoler, je me disais c'est gagné, c'est bon. Puis ensuite on m'a fait entrer, on m'a dit, ça nous a beaucoup plu. Je dis oui, je vous ai entendu rire. Oui, mais attendez, il faut quand même qu'on vous dise, ça nous a plu à nous. Mais sur le plan enseignement, c'est pas possible qu'on le projette dans les salles de classe. Je dis pourquoi ? Elle dit, vous nous avez entendu rire ? Je dis oui. Elle dit, est-ce que vous pensez qu'on projette un film pour que les enfants rient dans leur salle de classe. J'ai dit au revoir messieurs, je fais le film d'enseignement. Bon, et puis, le film d'enseignement, il y avait deux copies qui avaient été tirées. L'une a continué à être expérimentée par le directeur, mais qui partait à la retraite, à l'école normale de Quimper. Et l'autre a été demandée par un gars qui est l'inventeur de la méthode active.
Freinet.
Bon. Et Freinet nous a envoyé des lettres dithyrambiques, disant je projette ça ici avec mes enfants, avec c'est eux qui organisent des projections, ça marche à fond, c'est formidable. Qui peut en faire d'autres? Et les gars n'avaient plus mon contact parce que j'étais parti faire autre chose. Quoi. Mais le film a été réexpédié et a atterri à la Cinémathèque de Bretagne. Maintenant, il fait la joie des enseignants aujourd'hui.
et il a été fait en il y a plus de 60 ans.
Enquête de cinéma, voilà, vous venez d'entendre un enregistrement de René Vautier, donc qui date pas d'hier, mais non plus pas si loin que ça. C'était au Polygone étoilé il y a quelques années. C'est vrai que ça donne envie de revoir, bien entendu, de voir, de découvrir ou de revoir des films de René Vautier. Un grand moment inédit qu'on a souhaité partager avec les auditeurs d'Enquête de cinéma. Et si vous désirez ou si vous avez récupéré l'enregistrement de cette émission en cours, vous pouvez retrouver l'émission directement sur le site Enquête de cinéma. Si vous tapez ça sur Google, en tous les cas, vous tombez sur le site dérive.tv. Et toutes les émissions d'Enquête de cinéma y figurent, donc vous n'avez plus qu'à les lire en streaming, et vous aurez la possibilité du coup de partager cette émission avec qui vous voudrez, ou de la réécouter dans son entier. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, et puis de vous retrouver peut-être sur le prochain rendez-vous d'Enquête de cinéma, dans quelques temps, en tous les cas, vous le saurez par nos mailing lists. Et puis sinon, si vous souhaitez le savoir, eh bien, vous pouvez contacter Radio Galère. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On termine avec encore un extrait de Avoir 20 ans dans les Aurès. Et je vous souhaite à tous et à toutes de découvrir et de redécouvrir les films de René Vautier. Voilà, à très 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 bientôt sur les ondes de Radio Galère.
j'aime bien savoir comment ça marche.
Tu veux vraiment savoir?
Oui.
Tu sais, Amor, ça fait un an que j'ai cette arme. Hein. J'ai jamais tiré. Je vais te montrer si tu veux. Voilà. Là, c'est le chargeur. On met les balles ici. Ensuite, on introduit le chargeur. Voilà. Et on l'arme. Pour tirer, tu mets ça comme ça, tu vois. Tu armes ici. Voilà. Et puis après, c'est tout simple. Tu tires. Tu appuies là et tu tires et puis tu tues. On tue beaucoup avec. Voilà comment ça marche cette arme, Omar.
C'est bien.
Ouais, c'est bien. Ouais, peut-être. C'est peut-être bien. Je sais pas.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Elle a dit que c'est joli.
Joli? Comment elle s'appelle?
Zora.
Je crois que je le mettrai plus que si. Tiens. Voilà.
Mmh.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Amor. Amor. On a peut-être encore besoin.
Au revoir.
Au revoir, Amor.